Bien, donc maintenant on a un quart d'heure, hein, si je ne me trompe pas dans le planning, pour discuter autour des interventions qui ont eu lieu dans ce panel. Et puis après je laisserai la place à Daniel Dayan pour qu'il conclue l'ensemble du colloque. Voilà, donc il y avait une question tout à l'heure, ici.
Bon, moi j'ai une question. On m'entend ?
Où c'est ? Parce que... Ah, c'est là, d'accord, ok.
Voilà. Je peux aller ?
Ah, oui. Non, non, attendez. Là, il y a une personne qui a commencé, vous parlez après. Hein ?
Non, non, ben, je laisse ma place à madame.
Allez-y, à madame, allez-y. C'est plus simple. Continuez.
Ok. Récemment, il y a eu des événements à Gaza. Et moi, ce que je remarquais, je regardais toutes les chaînes d'infos permanentes. Et on voyait toujours... maintenant, il y a une bannière en dessous... où il y a les titres et je voyais un nombre de morts qui augmentait. Et la réflexion que je me faisais, c'est puisqu'on n'a aucun journaliste sur place, on nous montre ce chiffre-là comme si c'était la vérité. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le cas que vous nous avez raconté tout à l'heure en Roumanie.
Tout à fait possible, oui, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a quand même quelques observateurs sur place. Il y a des gens de l'ONU qui sont quand même là-bas. Les journalistes qui sont en poste à Jérusalem ont des correspondants qui ne sont pas forcément des journalistes, mais qui peuvent les informer. Le téléphone fonctionne, donc on n'est pas tout à fait dans... Parce que les gens, on connaît, si vous voulez, on ne découvre pas comment on a pu découvrir la Roumanie. Mais c'est clair que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes et devraient être donnés avec le conditionnel, c'est sûr.
Alors, la question ici.
Oui, moi, d'abord, je voudrais commencer pas par une question. Je voudrais reprendre ce qu'a dit Marie-Josée Monsdin, concernant l'image, qu'il fallait y croire. Alors, je trouve ça tout à fait intéressant, mais au fond, est-ce qu'on ne croit pas que ce qu'on voit et ce que vous dites de l'image, finalement, on peut tout à fait le dire de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas croire en la parole de celui qui parle ? C'est-à-dire que pour pouvoir communiquer, évidemment, il faut qu'il y ait croyance. Donc voilà, c'est sur le traitement de l'image qui peut avoir ces différents aspects, c'est-à-dire être à la fois de l'ordre de l'imaginaire, et je crois que c'est ce qu'on a pu entendre abondamment cet après-midi, ça peut être de l'ordre du symbolique, et ça peut être de l'ordre du réel, c'est-à-dire de l'indicible. Concernant ce que vous disiez, monsieur, par rapport à l'épisode de Ceausescu, je me souviens de cet épisode. Je voyais la télévision, comme tout le monde, avec mon époux, et il y avait un ami qui était là, qui était Serge Moscovici, que plusieurs doivent connaître. Et puis nous, mon époux et moi, nous regardions donc la télévision. On était prêts à aller apporter nos paquets pour aider à cette révolution. Il y avait une adresse qui était donnée. Et puis Serge Moscovici est arrivé, qui est, comme certains le savent, d'origine roumaine. Et puis il nous a dit, mais ces Roumains, tous des menteurs. Et puis tout d'un coup, nous étions complètement consternés par rapport à cette image, effectivement, auquel nous croyons. Et voilà. Donc, par rapport à cette question de la véracité ou pas de l'image, l'image, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle peut être soit vraie ou fausse, mais ça rentre dans une séquence, dans une série. Et puis, il faut y croire ou ne pas y croire, comme à la parole. Voilà, non. Vous avez traité en quelque sorte de l'image comme on peut le faire aussi de la parole.
Non, il y a une différence. Je vais d'abord vous répondre comme les pères de l'Église. Je les ai un peu fréquentés et ils savaient vraiment pourquoi ils préféraient que les gens lisent pas l'évangile et regardent des images. Ils ont eu un raisonnement tout à fait impeccable et d'une modernité. Ils ont dit trois choses. Un, l'image a une présence immédiate. Elle a une sorte d'évidence pour le corps. Deux, l'image ne connaît pas la négation. Trois, l'image est en mesure et a une puissance d'émotion. L'image, comme ils disent, brouille les yeux de larmes, de joie ou de tristesse. C'est-à-dire, donc trois choses importantes, le temps, l'absence de négation, la puissance émotionnelle, l'ébranlement du corps. Donc, ce sont les trois caractéristiques. Les pères de l'Église étaient très bien pour ça. Donc, on a supprimé, on a dit, ne lisez plus, regardez les images. Parce qu'on était en train de fabriquer du pouvoir, et du pouvoir par la croyance. Et que c'était ça qui était bien. La question de la... Quand quelqu'un me parle, si je lui réponds que je le crois ou que je ne le crois pas, j'utilise le même langage que celui avec lequel je m'adresse. Si je dis d'une image que je n'y crois pas, je m'adresse à elle dans un langage dans lequel elle ne s'adresse pas à moi. Serge Tisseron rappelait tout à l'heure le petit passage de Descartes bien connu du bâton. La parole est en mesure de répondre au fil du temps par son savoir que le bâton, il y a l'angle de réfraction qui fait que vous croyez que le bâton est brisé, mais vous savez et vous allez l'expliquer. Voilà, ça, la parole est en mesure de redresser le bâton, mais les yeux pas du tout. Les yeux continuent de voir le bâton brisé. C'est-à-dire que le rapport que nous avons, le rapport de la vision au monde perçu, est un rapport d'adhésion immédiate et sans rectification. Parce qu'il n'y a pas de rectification. Ah, attendez, il n'y a pas de paupières sur les oreilles.
On
oui.
peut se mettre des petites pièces.
Non, le problème. Non.
Pour ça.
Justement. C'est très grave ce que vous dites. On peut fermer les yeux. Il ne faut pas faire la grève du regard. Il ne faut pas faire la grève de la vision. La question constituante du regard dans le rapport intersubjectif, la psychanalyse l'a bien dit, on construit de l'autre dans un échange de regard. Hein ? La construction subjective, elle se fait par la vision, à tel point que si vous êtes aveugle, il va y avoir des substituts et il va y avoir malgré tout une image de soi. Donc, c'est pas les paupières qui nous sauvent de la croyance.
On va pas rentrer trop dans un dialogue, mais je voudrais juste.
En plus, on rêve les yeux fermés.
Je voudrais juste rajouter à ce que vous dites. On croit que ce qu'on voit, c'est. Il faut ajouter que ce qu'on sait. Surtout, c'est ce que tu dis, parce que quand tu dis c'est la parole qui dit, c'est surtout la science qui explique chez Descartes le bâton cassé. Comme l'a bien montré Cédric tout à l'heure, ce qui était intéressant dans son regard, dans son exposé, c'est que il montrait bien que n'importe quel un savoir peut découper l'image d'une façon très différente d'un autre savoir. Oui, on vient de le voir. Donc, non, mais c'est encore un autre problème parce que là, on a vu quelque chose qui est du montage. Mais même dans un plan séquence. Et donc, il faudrait pas non plus tomber dans cette idée un peu vaine de la pureté du regard, quand même. Hein.
Je voudrais ajouter alors, juste une phrase de plus. Excuse-moi. Oui. C'est la question du partage qui a été évoquée donc par mon voisin. La question du partage. La parole se partage et elle circule entre nous. Elle est entre nous. L'image nous arrive à chacun individuellement sans appel. C'est-à-dire que jamais vous ne verrez ce que l'autre voit. Mais nous pouvons écouter ensemble une même parole et en discuter.
Bon, peut-être, excusez-moi, s'il y a d'autres questions, parce que je crois qu'on n'a plus que 3 minutes à peu près. Je suis formaté moi aussi, je suis obligé de rendre l'antenne à 20h pour le journal télévisé. Oui, allez-y. Non ? Il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Pardon.
Le jaune, micro jaune.
D'accord, Barbie.
Moi, j'ai été très intéressée par ce qu'a dit Monsieur Le Pers, et c'est très rare d'entendre un journaliste dire on a fait une erreur, je voudrais faire un rectificatif, et tout le monde lui dit mais surtout pas, on ne s'excuse jamais. Donc, je voudrais qu'on poursuive un peu là-dessus. Le thème de cette dernière séance, c'est l'éthique. Alors moi, je voudrais vraiment qu'on parle d'éthique un peu plus sérieusement que ce n'a été fait sur les traces de ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire, éthique, il y a des règles, il y a des codes, il y a des chartes. Et l'éthique des journalistes en France par rapport à celle des journalistes américains n'a rien de comparable. Donc je voudrais que vous nous disiez, que vous alliez un petit peu plus loin que ce que vous nous avez dit de votre expérience personnelle. Moi, je pensais évidemment à l'affaire Aldoura. Et quand je vois la réaction qui consiste à dire « Anderlin n'a pas pu se tromper, on fait une pétition », moi, je comprends pas. Je veux dire, en France, jamais on ne dit « je me suis trompée ». Et en France, le journaliste est responsable, non pas vis-à-vis de ses lecteurs comme aux États-Unis, mais vis-à-vis de ses pairs. Alors, mis à part l'école que vous avez créée et les bons principes que vous venez de nous démontrer par le petit film très intéressant, est-ce que vous pourriez essayer charte, code du journaliste? Moi, je n'ai jamais vu un journaliste être poursuivi pour diffusion de fausses informations. C'est un délit qui existe. Jamais on ne l'applique. C'est un article tombé en désuétude dans le code pénal. Donc, à ce propos, est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment, nous dire un certain nombre de choses, aller plus loin que votre expérience très intéressante qui a été rapportée? Et je sais pas, nous parler de vérifier ses sources, par exemple, d'expliquer des choses un peu plus aux gens qu'on ne le fait, avant de créer ensemble avec eux des choses. Bon, il faudrait peut-être que les documents arrivent plus nets, plus sérieux, plus... Donc je voudrais vos suggestions là-dessus, à défaut d'avoir réellement un juriste qui puisse lancer d'autres pistes que des pistes philosophiques qui me semblent pas vraiment dans le sujet de l'éthique. Je veux dire, l'éthique, c'est aussi des règles.
C'est la philosophie ?
Si, mais c'est aussi des règles de droit. Il suffit pas de se dire on est tous assez grands et assez bien pour respecter. Il faut qu'il y ait des obligations qui soient écrites, un code et des sanctions. Il y a aussi les devoirs des journalistes.
C'est la déontologie.
La déontologie. D'accord. Oui, mais alors, non, pas seulement la déontologie. Il faut qu'elle soit sanctionnée.
Pour qu'on puisse poser toutes les questions, je vais demander, comme un journaliste, de répondre très vite en une minute.
Je serai très court. Je trouve que dans votre question, il y a beaucoup de votre avis, énormément, qu'elle est très chargée, très induite. Je vais pas aller dans un grand débat là-dessus. Je crois qu'on n'a pas le temps. Non, moi, je suis contre le fait de trop judiciariser et même encadrer les journalistes. Je pense qu'un journaliste, en France, il doit prouver sa bonne foi. Je pense que c'est un bon système. C'est-à-dire que vous pouvez dire une erreur dans le droit français. Si vous prouvez que vous l'avez dit sans volonté de nuire, vous n'êtes pas condamné. Ceci dit, je pense que ça c'est au niveau judiciaire. Non, c'est même sur les fausses informations et c'est la bonne foi qui est invoquée. Mais peut-être, on est dans un pays où les choses sont très floues, vous savez, sur le droit des journalistes. Et je pense que les journalistes, encore une fois, ils essayent effectivement de se défendre. Je crois qu'ils doivent rester ensemble. De temps en temps, effectivement, je pense qu'ils doivent se dire quand ils disent des bêtises, ça, on le fait pas assez. Je pense que si on faisait ça, on avancerait déjà. Mais je pense que je suis contre une organisation et un conseil des pairs qui nous condamnerait. Non, je pense que je ne suis pas là-dedans du tout.
Merci. Une question, Barbie Salitzer.
Yes. First of all, I want to thank you for three wonderful presentations. And I want to start by talking to Anne-Marie, if I might.
Je voudrais vous remercier tout d'abord pour ces trois merveilleuses présentations, ces trois meilleures choses qui viennent d'être dites, et je voudrais parler directement à Marie-José Mondzin.
I appreciate that you say that rather than focusing on knowledge per se, we need to start thinking about communities of belief.
J'apprécie le fait qu'au lieu de parler du savoir en tant que soi, en tant que tel, vous parliez de communauté de foi, de croyance en tout cas.
But as I understand journalism from the ground up, there's very little in the practicalities of journalism, and I'm not speaking about ethics per se. I'm speaking about I'm speaking about the force towards globalization. I'm speaking about the opening of the production of news to numerous people, whether they be journalists or not. I'm speaking about financial and political and technical pressures. I'm speaking about the infrastructure that forces us to focus on the immediate without being able to somehow position it in a more grounded fashion. There's nothing that I can point to today in journalism that's going to push us toward unified communities. Rather, what we have are niche markets. We have small groups of people focusing on small messages. So how does that connect with what you suggest as the way to get to a new understanding of images? That's one question.
Je vais le prendre à l'envers, si vous permettez. Tout nous montre aujourd'hui qu'on ne va pas vers une communauté globale en raison de la globalisation, de l'information, en raison de tout ce que vous voulez, mais on va plutôt vers des petites communautés d'intérêt. Alors comment est-ce que ça peut se relier à ce que vous avez dit précédemment? Ça, c'est ma première question.
Peut-être que c'est... Je ne sais pas s'il faut faire vite.
Oui.
Comment? Alors, je préférerais que vous précisiez ce que vous entendez par il n'y a plus de. Sur la première partie de votre phrase, qu'il n'y a plus de.
Il n'y a plus de communauté générale. En
oui, c'est
telle,
ça que je comprends
mais
pas.
Il y a des petites communautés d'intérêt.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a plus de communauté générale. C'est ça qui n'est pas très clair pour moi.
I hope I understood you correctly, but I thought that I understood you to suggest that we need to move towards some kind of collective response in understanding how images work.
Je pense vous avoir compris correctement, en ce sens que vous parlez d'une communauté dans la compréhension de la façon dont fonctionnent les images, c'est ça?
Oui, d'un partage du sens, dans un partage de la parole face aux images. C'est vrai que ce partage, si c'est ça que vous voulez dire, ce partage ne va pas se faire à une échelle mondiale. Le partage va se faire chaque fois que des gens se rassemblent autour des images, voir un film ensemble, voir des informations ensemble, voir un documentaire ensemble, réfléchir ensemble, comme on l'a fait aujourd'hui, sur des pratiques ou sur des modes, des méthodologies d'analyse. Moi, par exemple, je pratique mon métier à la fois dans le milieu universitaire et puis avec les enfants, parce que ça m'intéresse. Bon, alors, si c'est dans ce sens, c'est-à-dire que on ne peut mettre en œuvre que des pratiques locales, précises, des dispositifs de parole qui à chaque fois vont changer. On n'a pas évoqué, par exemple, ce qu'avait fait Daniel Schneiderman pendant quelques années à la télévision, qui était Arrêt sur image, qui était une façon d'utiliser la télévision à un certain moment de la semaine, pendant une heure, en compagnie à la fois de journalistes, d'interlocuteurs et d'enfants, et de voir au fond qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait compris, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, et tout d'un coup de mettre en marche une petite machine critique. Évidemment, cette émission a été supprimée.
Elle existe sur Internet.
Elle existe sur Internet, oui, vous avez raison de le rappeler. Donc Daniel Schneider. Mais voilà, alors si vous voulez dire que la communauté, nous ne sommes plus en mesure de répondre globalement à la crise globale, c'est vrai, parce que actuellement, je crois que la seule façon de répondre, c'est le tissu micro-social, ce sont les associations, les lieux de travail, les initiatives individuelles, les initiatives professionnelles, les regroupements, et sans arrêt, c'est ce que j'appelle créer un état sismique dans une société qui a besoin de se réveiller et de se réapproprier, chacun là où il est, les instruments de son jugement et de sa capacité politique. Donc ce n'est pas effectivement globalement, si j'ai répondu à votre question.
Can I go on just a little bit? I agree with you on that. And I guess my question is less than global. I mean, I know that in the United States, for instance, different age groups, different ethnicities, different racial groups, we're not attending to the news in any uniform fashion anymore. And if we think historically about how journalism always had a kind of unified origin in connection with the nation state, we're so far beyond that now we have news that travels farther, faster, and more powerfully, and yet affects fewer people.
Vous savez, aux États-Unis, par exemple, l'information est perçue différemment selon la classe d'âge, selon l'origine ethnique etc., etc. Oui. Et maintenant, à cette époque de globalisation, l'information fonctionne beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin, mais ça touche de moins en moins de monde, ça touche de moins en moins de gens, globalement, ensemble.
Ça, je le comprends pas vraiment. Enfin, comment un média qui...
Parce que ça s'éparpille. Parce que ça s'éparpille, je pense.
Oui, mais ça s'éparpille, ça touche différemment, mais de plus en plus de monde. Mais différemment.
En fait, oui, mais si je comprends bien ce que...
J'ai omis juste une phrase. C'est que le journalisme et le métier de journaliste, qui était un métier qui faisait ce qu'on appelait en France autrefois la messe. L'aspect réunificateur, l'aspect unificateur, l'aspect de création de l'État-nation qui était celui qui avait le rôle de journaliste auparavant, il ne l'a plus aujourd'hui.
Ça, oui, là,
I think we're in trouble if my translator is speaking for me and I don't know what he's saying. Why don't we speak about this afterwards?
Voilà. Peut-être qu'on continuera là.
Oui.
Je veux bien continuer avec vous le débat là-dessus, mais je ne voudrais pas empiéter trop sur le... Mais je suis très intéressée par la question.
On va prendre une autre question.
Je vais juste, parce que je sais que tout le monde est... Mais je suis un petit peu bouleversée, un peu émue. Alors, excusez-moi, je voulais prendre trois exemples par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'est quand même assez grave. L'exemple de Los Angeles, je suis frappée que vous ne parliez pas, justement, de quelque chose dont Barbara parle un petit peu, là. C'est de la face... Celui qui regarde avec tous ses préjugés. Il regarde avec... Bon, dans le cas de Los Angeles, c'est évident qu'il y avait un regard raciste. Donc évidemment, ces images, il ne voulait pas y croire. C'est un premier exemple, et c'est bouleversant. Le second, c'est le négationnisme. Par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il y a des images, mais ils ne veulent pas y croire. Et troisièmement, l'exemple de Gaza, sous prétexte que c'est le Hamas qui prend des photos, c'est forcément truqué. Donc il y a quelque chose... par certains spectateurs. Laissez-moi finir. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on regarde une image par rapport à nos appartenances, nos identités, notre sexe, notre croyance. Donc la croyance, elle ne va pas de soi. On peut réfuter toutes les preuves que vous voulez. Et ça, c'est bouleversant. Et ça me bouleverse. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Vous ne pourrez jamais convaincre un négationniste. Vous ne pourrez jamais convaincre qu'une image du Hamas peut pas être truquée.
C'est pour ça que j'ai...
Vous ne pourrez jamais convaincre un raciste que...
C'est pour ça que j'ai cité le travail de Günther Anders en disant qu'on sait ce qui s'est passé à Hiroshima et on n'y croit pas. Et c'est donc ce dont il prend acte, c'est cette défaillance de l'imagination, cette capacité d'assumer ce qui s'est passé et d'en assumer le sens, et le sens pour l'avenir.
Donc, c'est ce que disait déjà Duras, que j'ai cité, voilà. Qui n'a rien vu à Hiroshima.
Je voulais dire, c'est sur les charniers
de Tim Schwara.
Non, pas de Tim Schwara, justement, sur les charniers qui ont en Allemagne, dans les camps de concentration, pardon. C'est pas l'image qui est la preuve, c'est les horaires de train.
Absolument.
Est-ce que vous avez vu le
C'est la masse. C'est pas l'image. L'image, elle peut totalement mentir. Donc, quand vous dites il faut croire les images, moi je me dis mais quelles images il faut croire. Et c'est Lanzmann qui a fait ce documentaire, voilà. Qui est allé voir les horaires de train et la fréquence de l'arrivée des trains et les gens qui regardaient les gens descendre du train. La preuve, elle est là. Elle est pas dans une image.
Tout à fait.
Voilà. Oui.
Bien. Une dernière question.
Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour les très riches pistes sur lesquelles nous sommes partis. Et je voudrais remercier particulièrement Marie-Josée Mondin pour son lien avec la croyance. Parce qu'effectivement, on voit les images avec ses croyances. Et alors, je voudrais me référer à l'intervention de Daniel Dayan à propos de quelque chose qui me semble avoir été oublié, qui est le statut du témoin malgré lui, ou du témoin qui n'a pas été choisi comme témoin, dans ce qui n'est pas encore un événement, à travers les tableaux que vous avez pu citer, et ce en quoi ça questionne finalement l'expérience théologique, ce que nous dit la théologie, la richesse de toute l'expérience de la théologie dans le domaine de l'image. Je voudrais juste donner ici deux références pour que tout le monde puisse y réfléchir en même temps. La question du visible, de l'image et du visible. Et la question du prophète en tant que voyant. Alors, je prends deux références dans la Bible, et puis je vous laisse reprendre le relais. Il y a un passage où le pouvoir est en fait un pouvoir, le pouvoir royal, donc, est un pouvoir qui vient de la parole de Dieu. Et celui qui va dire, qui va donner l'image de celui qui va être le roi, c'est le prophète. Et alors, je pense à un passage très précis où c'est le prophète Samuel à qui Dieu parle et qui lui dit « Va dans la famille de Ishaï, et dans cette famille, tu vas trouver celui qui va devenir roi. » Le prophète va, et Ishaï a 7 fils, et il voit les 7 fils, et le prophète, dont le métier de journaliste de l'époque était de voir, ne voit pas parmi ces 7 fils celui dont Dieu lui parle. Il écoute encore Dieu, et il interroge Ishaï, et il lui dit « Mais tes 7 fils sont là, est-ce que tu es sûr qu'il n'y en a pas un autre ?» Il dit « Oui, j'en ai un autre, le 8e. » Il est avec les brebis, il s'occupe de la vaisselle, il n'est pas intéressant. Et alors le prophète, qui voit évidemment toujours pas, mais qui entend la parole, dit « Va le chercher ». Et quand il arrive, il dit « C'est lui ». Alors c'était juste cette première référence. Et une deuxième que tout le monde connaît, c'est le moment, alors le témoignage collectif par excellence, qui est la révélation de la loi sur le Sinaï, où tout le monde entend. Et à ce moment-là, le texte dit « Il faut voir les voix. » Donc, autrement dit, il faut entendre les images et voir les voix. Voilà ce que je voulais remettre.
Merci. Je crois que, tu vas conclure en même temps. Tu vas reprendre la parole et tu vas la garder.
Hein, d'accord. Voilà. Moi, je veux bien.
Comme ça, je te passe le relais.
Alors, je crois que cette référence au rôle du témoin en théologie me paraît passionnante, et l'histoire que vous avez racontée est très belle, mais le sens pour moi de la référence au témoin en théologie consiste précisément à établir un continuum entre les différentes pratiques de témoignage, et ce qui m'apparaît particulièrement fort dans la théologie, c'est de montrer comment on peut être témoin, non pas par un choix volontaire, mais parce que ça vous tombe dessus. Et donc, c'est le fait de se retrouver devant une obligation, et l'obligation de rapporter, l'obligation de dire, et que le choix consiste alors non pas à témoigner, mais le choix consiste à se soustraire au témoignage, et il y a une limite à partir de laquelle on ne peut pas se soustraire. Et donc il existe à ce moment-là une éthique du témoigner, et cette éthique du témoigner a quelque chose de très intéressant, et son lien avec l'authenticité, c'est qu'il existe des témoins qui sont des témoins empressés. Il existe des témoins qui sont des témoins tellement empressés qu'ils sont pressés de se précipiter au devant d'un événement potentiel de façon à pouvoir témoigner de cet événement. Lorsqu'on fabrique l'événement dont on veut témoigner, à ce moment-là, il se crée une sorte de doute quant à la validité du témoignage. Mais la chose qui me paraît essentielle concernant le témoignage, c'est cette décision qui fait que le témoignage ne vient pas de votre volonté. Si ça venait de votre volonté, ce serait simplement un acte. Ça n'est pas un acte, c'est un acte qui renvoie à une obligation. Alors, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point que je voulais proposer concerne le problème de l'image. Marie-Josée a dit de façon très belle que les images sont molles, qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Les images sont molles, mais le problème d'isoler l'image et de la placer dans une sorte de bulle absolument hermétique où les capacités cognitives du langage se heurteraient et seraient incapables d'entrer me paraît très artificiel. Dans la plupart des situations que je connais, les images ne sont jamais seules. Il n'y a jamais de gens qui regardent des images sans que ces images soient entourées de langage. Et donc la question qui me paraît essentielle n'est pas la question de l'image. Il me semble qu'à la limite c'est une fausse question. Il me semble que la question essentielle c'est celle de la pragmatique qui va permettre à l'image d'être montrée. La question, c'est celle de la monstration. De la même façon, je dirais qu'un témoin est désigné de l'extérieur, une image est construite par le discours qui la montre. Et derrière toute image, il y a un corps, et ce corps exhibe ou n'exhibe pas. Et donc, le fait d'exhiber ou de ne pas exhiber, à ce moment-là, engage un certain nombre de comportements éthiques. Il y a des façons éthiques d'exhiber. Par exemple, ma relation à l'autre, je peux montrer le visage de l'autre, je peux faire entendre la voix de l'autre, je peux m'arranger pour que l'autre ait une voix et un visage, ou bien je peux dénier à l'autre le droit d'avoir une voix et un visage, je peux lui refuser la reconnaissance, je peux lui refuser cette dimension essentielle que les Anglais appellent « regard » et qui signifie à la fois la capacité de voir, le regard et le respect. Donc il me semble que l'éthique, ça se situe là, et que l'éthique, ça se situe aussi à un point sur lequel je suis absolument d'accord cette fois-ci avec Marie-Josée, et ce point, c'est la liberté qui est laissée à celui qui reçoit de juger. Il existe des discours, il existe des formes de monstration, et pour moi, l'éthique de la monstration, c'est précisément lié à la capacité de respecter la possibilité de juger du récepteur. Il existe des formes de monstration qui vous empêchent de juger. Il existe d'autres formes de monstration qui sont ouvertes au jugement. Il existe des formes de monstration qui, par exemple, ne disent pas quelle est l'origine de l'image. Il me semble qu'une hygiène de l'image serait chaque fois de préciser son origine. Des images non originées, finalement, sont des images qui peuvent être très facilement mensongères. Mais peu importe la question du mensonge, la chose qui m'intéresse le plus, c'est la question de la liberté du récepteur. Et cette liberté du récepteur envoie une autre notion qui me paraît essentielle, c'est la bonne distance. Je crois qu'il est essentiel, par rapport à la pratique de l'information, de respecter une certaine distance vis-à-vis de ceux que l'on montre. Et cette distance doit se calculer d'une certaine façon. Ça ne doit pas être trop près et ça ne doit pas être trop loin. Si je me place trop loin, je cesse de reconnaître l'humanité de ceux que je montre. Mais si je me place trop près, j'entre dans une sorte de relation duelle avec ceux que je montre, qui fait que j'oublie que la plupart du temps, les nouvelles parlent de conflits, et que face à telle personne dont j'éprouve la proximité, il y a une autre personne dont j'aurais pu éprouver la proximité. Et donc, il me semble que l'un des grands principes de la prise des nouvelles, l'un des grands principes qui consiste à respecter précisément la liberté du spectateur, c'est ce que j'appellerais le principe d'équidistance. D'une distance équidistante, c'est-à-dire une distance juste. Et une distance qui permette de comprendre que face à l'autre, que je reconnais ou je ne reconnais pas, il existe l'autre de l'autre. Et il existe tout un narcissisme qui consiste pour moi à penser que l'autre de celui qui m'est lointain, c'est toujours moi. Mais l'autre de celui qui m'est lointain, ça n'est pas nécessairement moi. L'autre a un autre. Et cet autre n'est pas moi, et c'est difficile à reconnaître, mais c'est très difficile aussi de créer cette distance qui permet de reconnaître à la fois que l'autre est humain et que l'autre n'est pas le seul humain, qu'il y a d'autres humains et que ces humains peuvent être en conflit. Okay ? Et il me semble que le problème des nouvelles, c'est de respecter cette dimension de conflictualité en permettant librement à celui qui reçoit de juger et de se faire une opinion, et de partager éventuellement cette opinion. Enfin, comme je n'ai pas une immense mémoire, il me semble qu'il est très important peut-être de revenir sur les dernières choses que j'ai entendues, mais souvent, en tirant sur un fil, sur le fil le plus tardif, on peut reconstituer un certain nombre de choses. Et je pense que mon ami Cédric, dans un exposé que j'ai trouvé passionnant et difficile, mais ça fait partie du jeu, c'est bien que les exposés soient difficiles, a utilisé une méthode qui est passionnante, c'est-à-dire qu'il a utilisé la méthode qui consiste à faire une sorte de phénoménologie des controverses. Il s'agit d'utiliser une controverse comme un moyen cognitif, c'est-à-dire qu'en essayant de voir comment un jugement s'est construit dans le cas de Rodney King à Los Angeles, il a été capable de déployer les différents arguments développés de part et d'autre de la controverse comme l'équivalent d'une sorte de théorie qui se serait développée sur le terrain. Et je pense que c'est la méthode qu'il utilise délibérément. Et il me semble que de ce point de vue, il a fait, je suis d'accord avec François Jost, qu'il a peut-être sous-évalué l'évolution de la sémiotique et la façon dont un certain nombre de réflexions sur l'image se sont portées de plus en plus vers le statut de l'index. Il ne s'agit plus de marquer une coupure radicale entre les images et le référent qu'elles représentent, mais il s'agit au contraire de respecter ce qu'il entre d'index dans les images, et c'est un index qui porte non seulement sur le montré, mais sur le montrant. Il existe toujours des traces de celui qui montre. Et il me semble que cette dimension indexicale est essentielle, et que cette dimension indexicale est quelque chose qui résiste quelle que soit la monstration. C'est-à-dire que les monstrations des différentes images vont organiser un récit et attirer les images à l'intérieur de ce récit. Et pour organiser ce récit et pour attirer les images à l'intérieur de ce récit, elles n'ont même pas besoin d'expliciter ce récit. Je pense par exemple à l'une des émissions les plus idéologiques que je connaisse, les plus aliénantes. C'est une émission qui s'appelle No Comment et qui se trouve sur Euronews. Et cette émission a tout le charme de ce qui ressemble à la plus grande honnêteté, à la plus grande liberté. Théoriquement, je suis libre, je suis d'une liberté absolue, puisqu'on ne me dit rien. Okay ? Et on me montre des plans-séquences qui représentent des pays lointains, et c'est à moi de me faire une opinion. Je suis merveilleusement libre, je flotte, je suis heureux. Et puis, il se trouve simplement que dans cette situation, Euronews, lorsqu'on montre de telles séquences, on montre de telles séquences sans avoir supprimé les récits grâce auxquels on les comprend. Ces récits existent, ces récits persistent, ces récits ont été répétés si souvent et si fort qu'il suffit de montrer une image sans le moindre commentaire pour que l'on arrive automatiquement à fournir le commentaire absent. Et donc, il me semble que certaines images d'Euronews, alors qu'elles semblent neutres, sont extraordinairement chargées d'actes de parole. Elles sont des célébrations, elles sont des condamnations, et alors qu'il est possible dans certaines situations de montrer la banalité de la vie de tous les jours dans un pays lointain, dès lors qu'il y a conflit, l'image sans parole est une image qui est chargée d'une énorme dimension de monstration. Et il me semble, pour finir cette présentation, que l'élément le plus important dans ce qui serait une sorte d'éthique du montrer, c'est cette notion de monstration. Et je pense que de ce point de vue, je suis entièrement d'accord avec la référence que faisait Cédric à une certaine approche déridienne, qui consiste à dire qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle en anglais « surveillance », c'est-à-dire le simple fait d'enregistrer. Les processus d'enregistrement ne sont pas les mêmes que les processus qui mènent à la monstration. Et je pense que c'est très important de voir à partir comment et à travers à quelle série de transformations on aboutit à la monstration. Et il me semble que dans le même geste, il est intéressant de se rappeler que les témoins eux-mêmes, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de witness, le mot witness signifie une personne, mais le mot witness signifie un énoncé aussi. Et donc le témoin, c'est une personne qui est une énoncée, c'est une personne preuve, c'est une preuve faite humaine. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment le witness est montré, comment le witness est exhibé et comment il existe. Chaque fois que l'on parle du témoignage, on fait un petit peu comme si le témoin et l'objet dont il témoignait et le public auquel il témoignait formaient trois entités et que ces entités flottaient dans l'éther. Mais le témoin ne flotte pas dans les terres. Le témoin fait partie d'une chaîne. Et il y a, par exemple, dans un discours juridique, le témoin habite un univers qui est peuplé d'avocats, de juges, de jurys, de plaignants, de défendants, etc. Et tout cet univers, c'est cet univers qui donne le sens à ce que c'est qu'un témoin. Par ailleurs, il est intéressant de savoir qu'il n'y a jamais de témoin à moins qu'il y ait une crise de vérité. Sinon, on n'aurait pas besoin de témoins. Et donc, à ce moment-là, le témoin n'apparaît que lorsqu'au moment il y a crise. Donc, il me semble que d'une certaine façon, il est important de repeupler le monde du témoignage, de le situer temporellement, c'est le moment de la crise, et de le situer sociologiquement, parce qu'autour du témoin, il y a une foule de gens qui ne sont pas simplement des accessoires, mais qui sont essentiels à la fonction du témoignage. Et parmi ces gens-là, il y a ceux qui ont le pouvoir, il y a ces médiateurs qui ont le pouvoir de vous décerner le rôle de témoin. Et il me semble que le médiateur qui a le pouvoir de vous décerner le rôle de témoin a un pouvoir immense. Et il me semble que de ce point de vue, c'est intéressant de regarder un petit peu du côté de Bourdieu en se demandant s'il n'y aurait pas, dans un certain nombre de situations, des champs du témoignage. S'il n'y a pas un champ du témoignage où, par exemple, les journalistes professionnels, après tout, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste professionnel? C'est quelqu'un qui est capable de produire une certaine forme de performance, qui travaille, qui est salarié et qui a une carte de journaliste. Mais le journaliste professionnel est donc une sorte de témoin légitime par rapport à d'autres témoins qui seraient peut-être légèrement moins légitimes. Il me semble intéressant que maintenant les organisations non gouvernementales se mettent à faire une concurrence extrêmement sérieuse aux journalistes. Ils font la même chose. Il s'agit dans les deux cas de proposer des monstrations, et il s'agit dans les deux cas de proposer des monstrations qui peuvent avoir d'énormes conséquences politiques. Et lorsque une troisième série de concurrents se manifestent, comme les gens qui sont des blogueurs, etc., il est important de savoir qu'on a un champ qui s'élargit et qu'à l'intérieur de ce champ, il y a des tensions énormes et que la question est de savoir qui va garder la place prépondérante dans ce champ? Est-ce que ce champ ne va pas se renverser? Il me semble que c'est une autre des perspectives qui renvoie à une sorte de sociologie du témoignage, et que cette autre perspective permet peut-être de distinguer en quoi le témoin qu'est le journaliste se distingue des autres formes de témoins.
Voilà, dernier mot.